tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, grande leçon d'informatique, celle du professeur Berry. Avec lui, nous mettrons aussi en concurrence l'intelligence humaine et artificielle. Dans un livre qui vient de paraître chez Albin Michel, Gérard Berry, professeur au Collège de France, se confronte à l'hyperpuissance numérique, à retrouver après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, L'étranger de Lydie Salver, prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer, la romancière interroge dans son nouveau roman la notion d'altérité et la fabrique du bouc émissaire. Tout homme est une nuit est son 12e roman et il vient de paraître au Seuil, à écouter tout de suite sur France Culture ou à retrouver plus tard sur le fil de vos podcasts.
Grande table. Olivia Jesbert.
Et bonjour Lydie Salver.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Au lendemain des manifestations MeToo qui avaient lieu hier dans toute la France pour que la parole se libère, celle des femmes aussi dans la rue, j'ai repensé à votre petit traité d'éducation lubrique. C'était culotté comme essai, surtout de la part d'une femme. Vous y mettiez homme et femme à égalité devant la lubricité, dans un rapport consenti, dans un élan aussi de libération des corps et des désirs assumés. Quel impact peut avoir, selon vous, Lydie Salver, cette vague de dénonciation, de révélation, cette prise de parole autour des violences sexistes? Est-ce que vous craignez, comme certains, voire comme certaines, c'est le cas de Claude Habib ce week-end dans le Figaro, une forme de glaciation des rapports hommes-femmes aujourd'hui, un retour d'un puritanisme un peu à l'américaine?
Je ne crois pas que dénoncer les abus de pouvoir viennent augmenter le puritanisme. Au contraire, les rapports entre hommes et femmes devraient s'en trouver plus heureux, plus libres, les femmes moins terrifiées par l'abus de pouvoir, le harcèlement, les hommes plus légers. Je ne vois pas le lien entre les deux. Ce serait un dévoiement, en tout cas, s'il y avait puritanisme de cette dénonciation.
Claude Habib, dans le Figaro, estime que la lutte légitime contre le harcèlement sexuel ne doit pas entraîner la dévalorisation de l'aménité entre les sexes, qui est une spécificité française. D'autres parlent, effectivement, et aussi de cette société de la séduction dans laquelle
nous vivons. Mais est-ce que ça empêche la séduction? Est-ce que ça empêche les rapports aimables? Je ne crois pas.
C'est pas pour vous, Lydie Salver, notre société qui est intrinsèquement viciée. Je voulais vous citer, vous soumettre la parole d'une autre romancière, celle de la Canadienne Nancy Houston, qui dans Le Monde dénonce le laisser-faire diffusé par la publicité, l'instrumentalisation des corps à des fins commerciales, un droit de cuissage démocratisé par le marché et par le capitalisme, une société allumeuse, dit-elle. Ça, c'est intéressant. Allumeuse à un point sans précédent dans l'histoire qui manipule nos désirs en les transformant en addiction. C'est qu'on s'étonne justement que tous ces signaux envoyés par le marché finissent par réveiller chez les hommes des instincts qui étaient autrefois inhibés par la religion.
Inhibés plus ou moins, non, me semble-t-il. Je crois savoir que de par le passé, il y a eu autant sinon plus de viols qu'aujourd'hui, non? En tout cas, c'est une question. Non, moi, la question que je me pose, c'est que ces harceleurs semblent sévir à peu près dans tous les domaines. Or, jusqu'à présent, on ne les a pas rencontrés dans le domaine du journalisme et de l'édition. Or, je crois savoir qu'il y a là, comme ailleurs, des harceleurs et qui profitent de leur position dominante pour abuser certaines femmes.
Un petit peu, dans les premiers hashtags, des journalistes qui
Je me garde de les lire, je n'ai pas du tout envie de lire.
Tous les secteurs seraient touchés d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient visibles ou invisibles, qu'ils soient au sommet de la société ou dans des sphères plus intimes, moins publiques. C'est ce qu'on apprend aussi aujourd'hui à travers cette libération de la parole. Vous pensez qu'on va réussir, et c'est un « on » qui ressemble à un « nous », à gérer collectivement ce moment et pas individuellement? C'est pas à chaque femme de se poser cette question, c'est à tous.
C'est ça le problème, c'est que nous sommes dans une société hyper individualiste, où chacun est en compétition avec l'autre, et il est très difficile de s'émanciper en s'inscrivant dans un collectif. Or, il me semble qu'il n'y a de solution, qu'il n'y a d'espoir, que si le souci de soi, de son émancipation, rejoint le souci collectif de cette émancipation. Sinon, nous n'arriverons à rien, me semble-t-il. J'ai l'impression de dire des banalités incroyables.
Dans tout homme est une nuit qui vient de paraître au seuil, votre nouveau roman. Le narrateur est un homme, oui. Anas, vous vous glissez dans la peau d'un homme. Il souffre d'un crabe malin. Il choisit de fuir avec sa maladie pour la gérer en solitaire, loin de la ville, loin de celle qu'il aime, Lucille. Il quitte tout et il part s'installer dans un petit village du sud de la France. Mais sa simple présence dérange. Elle dérange les villageois, dont les piliers, Dédé, Gérard, Émile et Étienne, qui se trouvent chaque jour au comptoir de Marcelin pour tromper peut-être leur ennui et organiser leur vengeance au fil des jours contre l'étranger, ce couac au milieu d'un concert dont on connaît toute la mélodie, écrivez-vous. Jusque dans l'écriture, leur voix et la sienne ne se mélangent jamais, Lydie Salver, comme une fracture indépassable. Qu'est-ce qui ressort pour vous de cette confrontation?
C'est un dialogue de sourds entre d'une part des hommes qui habitent un village qui s'est trouvé petit à petit déserté de ses commerces, déserté d'une partie de ses habitants, dont des hommes qui ont le sentiment qu'ils vivent dans un monde qui se finit, qui s'éteint, qui se meurt et qui reste accroché à leurs valeurs anciennes. Ils essaient de penser à leur inquiétude et le piège, c'est que il n'y a que les partis populistes qui leur fournissent des explications à ce mécontentement qu'ils vivent, à cette inquiétude qu'ils ont. Et donc le patron du café, Marcelin, autorisé par ces partis, va tenir des propos xénophobes qui peu à peu vont être acceptés, tolérés, repris. Et ce qui n'était au départ que préjugé va devenir une vérité établie et donc éminemment dangereuse. Donc, ça c'est ce qui se passe du côté des clients du café. De l'autre, un homme malade qui pense d'ailleurs, parce qu'il est dans une société donc hyper individualiste, que s'émanciper c'est se délier des autres, c'est se séparer, c'est s'isoler, se mettre en retrait. Et qui transporte dans un village des pratiques qui sont des pratiques citadines, hein, l'isolement, le repli sur soi, la défiance vis-à-vis des autres, et les uns et les autres vont se perdre en interprétation et ne se rencontrer jamais, jusqu'à ce que cet Augustin arrive, qui est peut-être la voix de l'espoir, la troisième voie possible entre ce qui serait d'un côté l'élite méprisante de la province, des campagnes, du soi-disant peuple, et de l'autre un peuple qui se croit ignoré, abandonné, exilé, non représenté, etc.
Et dans la voix de Marcelin, et sous votre plume, Lydie Salver, ça donne cela, un fond d'inquiétude indéfinissable que l'obsession des deux compères avait fait surgir, subsistait encore. Alors il éprouva le besoin de s'en prendre à quelqu'un, de se venger, de gueuler un bon coup de façon à passer son angoisse sur un autre et de s'en débarrasser. Pourquoi devient-il cet autre, cet étranger, sujet de suppositions, de superstitions et de fantasmes? Retour sur la fabrique de l'ennemi, sur notre besoin de bouc émissaire, avec la voix de l'anthropologue et philosophe René Girard.
L'intérêt du phénomène, c'est qu'il n'est pas psychologique seulement, puisqu'il faut qu'on soit plusieurs pour avoir bouc émissaire. Et il n'est pas social seulement, puisqu'il y a un phénomène psychologique chez chaque individu. Donc il est l'intermédiaire entre le un et le tout. Donc il est d'une importance sociale prodigieuse, parce qu'il est le passage de la violence désordonnée, de tous contre tous, à la violence de tous contre un. Et je dirais la preuve que nous comprenons ce que sont les rites, c'est que nous utilisons bouc émissaire comme nous le faisons. Le dictionnaire vous dira que le sens vulgaire aujourd'hui, c'est le sens dérivé. Mais moi je dirais pas du tout, c'est le sens originel. C'est le fait que les hommes sont capables de transmettre leurs tensions, leurs agressions sur un tiers. Et plus ils sont nombreux à le faire, plus ils sont convaincus qu'ils ont raison. Parce que chacun trouve la conviction dans le regard de l'autre. Le dangereux du social, c'est ça. Et en même temps, le social originel, sans doute, est forcément lié à ça.
Et des boucs émissaires, Lydie Salvaire, on s'en fabrique dans les villes comme dans les campagnes aujourd'hui.
Hein. Bien sûr.
Ce roman, c'est d'abord un portrait de France pour vous, un village métaphore, là où il se rend quelque part. Une France à l'humeur, et je vous cite, « malade, le pouls filant, le souffle court, les grands idéaux que le pays avait longtemps portés avec panache, amochés, mal en point, et l'âme si lasse et si affaiblie que la montée d'un parti politique abject lui semblait une chose dont il pouvait, au prix de quelques arrangements, s'accommoder. » Ça, c'est un monologue.
Oui. Dans le livre des juges, dans l'Ancien Testament, il est raconté une histoire où les habitants d'une rive du Jourdain, pour aborder sur l'autre rive, devaient prononcer impeccablement le mot « shibboleth ». J'ai le sentiment que cette histoire est contemporaine et que... nous fabriquons, les partis extrémistes fabriquent sans cesse des shibboleths, des nouveaux codes, des mots d'appartenance, des mots qui permettent de tracer une ligne de démarcation entre nous et les autres, et ce dont il est question dans ce livre. Et ces questions-là, je me les posais pendant la campagne présidentielle parce qu'il me semblait qu'il y avait un ressentiment élevé au rang d'arguments politiques, une vengeance, une hostilité, des passions tristes qui me semblaient très inquiétantes. Et je me disais qu'on était peut-être arrivé à ce moment historique où les écrivains doivent assumer leurs responsabilités, comme pour l'affaire Dreyfus, Zola, Proust et d'autres, que je devais dire quelque chose de cette ère délétère qui accablait la France en 2016. Qu'il fallait que cette affaire me concernait personnellement et qu'il me fallait la dire. Malgré les réticences que j'avais à faire du politique un roman, puisque j'avais en tête cette citation de Stendhal qui disait « Lorsque vous mettez du politique, ce qu'il adorait faire, dans un roman, vous offensez mortellement une moitié des électeurs et vous ennuyez mortellement l'autre moitié. » Donc j'avais tout à fait conscience de ça, que c'était compliqué de dire le politique en littérature, surtout lorsque la politique concerne des événements présents. Mais quelque chose en moi me disait que je ne pouvais pas me dérober à cette histoire.
Compliqué aussi de raconter par les mots, par la littérature, une fracture, celle peut-être de notre pays. Compliqué de ne pas tomber dans la caricature. Oui. On sent que vous marchez sur un fil entre le profil, la figure du citadin qui arrive dans la campagne et ses villageois, que vous ne jugez pas, mais que vous montrez quand même assez véhément. C'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont cette attitude par rapport à l'autre. Comment vous l'expliquez sans le juger?
La difficulté, c'était d'éviter la caricature et en même temps de leur donner le langage qu'ils ont, un langage qui est pauvre. Ils sont pauvres de langue pour X raisons, parce que l'accès au bien-dire, à la culture, aux nourritures imaginaires leur a été barré. Et que c'est précisément, je pense, cette pauvreté de langue qui ne permet pas l'énonciation de certaines de pensées complexes, qui explique qu'il soit la proie si facile des partis extrémistes, me semble-t-il. Mais j'avais du mal à le faire parce que je craignais évidemment qu'on me prête un regard de mépris distingué sur ces gens qui s'expriment dans un français de guingois. Mais il fallait le faire, il fallait le faire.
Ce qui est intéressant, c'est que la langue reste un marqueur social, qu'on le veuille ou non, et on ne peut rien contre ça. Vous êtes fille de réfugiés espagnols et le français n'est pas non plus votre langue maternelle. Vous savez ce que c'est que d'acquérir la langue qui vous permettra de passer les frontières, d'en pas pleurer le concours 2014, le vôtre. Vous relatiez justement la fuite et l'exil semé d'embûches de votre mère qui a quitté l'Espagne de Franco pour la France. A-t-elle vécu, a-t-elle subi le même accueil? Est-ce que vous en avez gardé, vous, l'idée que l'intégration à ce « nous » est toujours assez lente et assez fastidieuse.
Je crois que l'arrivée en France en 1939 de mes deux parents a été compliquée, puisqu'ils étaient accueillis par des raus peu amènes et vus comme des rouges dangereux. Mais il y a un bénéfice à cette histoire familiale, c'est qu'elle m'a rendue très sensible à la question de l'étranger, à la question de tous les étrangers par la folie qu'il porte. La folie est étrangère à celui qui le porte. Je me disais que le génie aussi était parfois étranger à celui qui le porte. L'inconscient, souvent, est notre étranger en nous, qui nous fait dire et nous fait agir d'une façon que l'on réprouve. Bref, que je me regarde et je m'étonne, disait Aragon, devant ce voyageur inconnu qu'il était. Donc cette histoire familiale m'a rendue très très sensible à la question de l'étranger et de comment s'intégrer, comment dissimuler les marques de l'étrangeté ou les assumer et etc.
La voix d'Annie Arnaud, auteur de La Place, qui était invitée d'Apostrophe en 84 et qui s'exprime justement sur cette question du langage.
Il y a une phrase qui est terrible. Vous écrivez à un moment, j'écris peut-être parce qu'on n'avait plus rien à se dire.
Oui, je crois que oui, c'est vrai.
C'est une phrase terrible.
C'est parce que mon père ne savait pas parler le beau langage, le langage des classes dominantes. Il parlait encore un peu patois. Il a désiré par-dessus tout, c'est que je fasse des études, que j'aie des diplômes, que j'aie tout ce qu'il n'avait pas eu. Et au fur et à mesure que j'obtenais ces diplômes, en même temps, moi, je changeais de monde. Et je n'ai pas été une enfant double, j'étais une enfant déchirée, je pense. Déchirée entre le milieu de mes parents et puis un milieu petit bourgeois que, automatiquement, je me suis mise à fréquenter. Et j'avais des intérêts différents des siens. Je lisais, on ne parlait plus le même langage.
Vous êtes d'accord avec ce que dit Annie Arnaud, cette enfance déchirée, cette séparation qu'il peut y avoir avec d'autres par l'acquisition du langage dominant?
En tout cas, dans ma famille, j'avais l'impression qu'on se parlait. Ceux qui ne se parlent pas, ce sont les clients du café, des sports. Parler suppose qu'il y ait de l'autre. Suppose que l'autre ne soit pas le même. Dans le café, parler sert juste à se rassurer qu'on est dans l'entre-soi, qu'on pense les mêmes choses. Et la parole ne sert pas à ouvrir l'accès à l'autre, mais au contraire à combler des inquiétudes, des failles, etc. C'était très important pour moi de dire que ces hommes au café parlent non pas pour se parler, mais pour se divertir au sens pascalien du terme, c'est-à-dire pour ne pas penser à eux, à leur propre violence, que du coup ils reportent sur d'autres, etc.
Et parfois on ne se parle pas dans votre roman aussi au sein des familles, hein, dans cette escalade de haine ordinaire,
oui,
vous l'évoquiez,
oui.
Il y a cette voix qui porte celle d'Augustin, le fils, à bien des égards plus lointain, plus obscur, plus déroutant sans doute et plus énigmatique qu'un étranger,
oui.
Le fils de Marcelin, il est tout cela pour son père et il est un peu l'ange de la raison pour vous.
Mais oui, il est l'utopie, il est l'espoir, il est dans la lignée de ces idiots sublimes que j'aime tant dans la littérature, le prince Michkin, le brave soldat Jvek, qui ont une puissance de résistance extraordinaire, qu'ils vont trouver dans la bonté, et une bonté qui est et une candeur, une innocence qui est scandaleuse aux yeux des cyniques, tant elle est rare. Et j'aime infiniment ces figures qui n'existent pas, je crois, dans la réalité, mais qui littérairement permettent de sortir, en tout cas dans le roman, de cette binarité atroce entre un camp et l'autre, entre ce qui serait la vertu d'un côté, mais ce serait effrayant de le penser comme ça, et le crime de l'autre. Il est une voie ouverte entre les deux, me semble-t-il.
Binarité que l'on retrouve dans la description assez sévère que vous faites de la jeunesse d'aujourd'hui, Lydie Salver, à l'image aussi d'une jeunesse divisée qui pense soit que tout lui est dû, et notamment la liberté, qui ne prête foi en rien, soit en colère, mordant sa laisse jusqu'au sang en espérant que quelque chose les exalterait.
Mais j'avais été très frappée en novembre 2015, après les attentats, de voir à quel point il y avait deux discours selon qu'on habitait la ville, Paris, où on était tous pour Charlie, ou Bagnolet, où j'ai des liens très forts puisque j'y ai travaillé des années, où l'on n'était pas Charlie. Et je me disais qu'il y avait vraiment deux mondes qui semblaient pour l'instant inconciliables et qu'il fallait évidemment les réconcilier.
C'est intéressant de savoir que vous avez arrêté, je crois, une activité de psychiatre pendant longtemps. Est-ce que c'est peut-être de là qu'est née l'envie pour vous d'écrire aujourd'hui des romans polyphoniques où s'expriment alors deux concerts, des voix que l'on a peu l'habitude d'entendre et en même temps de faire entendre des monologues intérieurs comme celui de votre narrateur? C'est comme ça qu'est construit le livre.
Oui, mais parce que dans la consultation que j'avais à Bagnolet, justement, j'avais le sentiment que je recevais le monde entier, qu'il venait à moi avec ces personnes asiatiques, africaines, et qui parlaient un français délicieux, je trouvais, parce que elles le tordaient avec leur accent, avec leur propre langue. Et dans ce métier difficile qui est de recueillir la parole douloureuse des autres, Cette langue parlée par toutes ces communautés étrangères, ce français mal parlé, me ravissait souvent.
Et dans ce livre, Lydie Salver, il est aussi question de la maladie, les questions de la mort et de ce que la maladie fait à l'envie de faire, à l'envie d'écrire, de créer. La maladie m'avait tari, dit votre narrateur qui est atteint d'un cancer. Ne restait au fond de moi que des cailloux et de la boue noire. Alors évidemment, cette phrase et bien d'autres font écho à ce que vous avez pu traverser, puisque malade vous l'avez été, peut-être l'êtes-vous encore. Le cancer, écrivez-vous aussi d'une très belle manière, s'il n'avait pas encore dépêché ses métastases à mon cerveau, l'avait colonisé de façon très perfide. Quoi que je fisse, quoi que j'envisageasse, il se tenait là, jambes écartées et cigare aux lèvres, à me coller au basque, à s'entremettre à tout propos et à me rappeler sans cesse en sourdine mon sursis. Avec lui, une angoisse inconnue m'était venue, une angoisse griffue, une angoisse méchante qui plombait toutes mes pensées et les rendait méchantes et me rendait méchant. Les maladies très graves ont une puissance anxiogène inégalée parce qu'elles vous obligent à faire de votre vivant le deuil de vous-même.
Oui, mais il y a plusieurs moments dans la maladie, celui où on annonce la maladie. Et là, c'est un gouffre qui s'ouvre sous nos pieds et on maudit ces marchands de sagesse qui nous promettent la sérénité et qui nous font croire que la maladie peut nous grandir, nous élever, etc. Puis vient le moment où on découvre qu'on est mortel, que vivre est une chose précaire et où on se dit qu'il faut vivre le peu qui reste de la meilleure façon, de la façon la plus juste, la plus heureuse, d'être souverain de ce temps, de sa vie, davantage peut-être, etc. Il y a deux moments il y a plusieurs moments dans la maladie. Il y a même un moment où on peut vivre la maladie comme une volupté.
Mais à aucun moment vous ne tombez dans le dolorisme, en tout cas, repoussait aussi le philosophe Ruven Ogian quand il était venu nous voir à la grande table. Il venait d'écrire mes mille et une nuits, la maladie comme drame et comme comédie. Il ne pouvait pas exalter cette douleur. Ça, c'est quelque chose qu'il se refusait à faire.
Et bien sûr, bien sûr.
C'est impossible.
C'est impossible, c'est obscène.
Mais vous avez retrouvé l'envie d'écrire.
Le goût m'est revenu, par la colère, je crois, devant ce qui se passait en 2015. Je pense que la colère, l'inquiétude, tout ce qui se passait, qui m'affectait, a été moteur et m'a arraché à la boue noire.
En septembre dernier, vous avez aussi pris la plume pour écrire un édito dans Les Inrocks, où vous désinguez le concept très français de rentrée littéraire, les classements arbitraires, le marketing tout puissant et le mépris culturel qui plonge dans l'anonymat, toute une production qui ne rentre ni dans les cases, ni dans les schémas préfabriqués du marché du livre et des écrivains. Là, vous dites aussi vouloir lutter quelque part pour qu'une enclave idéale soit préservée, où on serait épargné des cœurs de la propagande littéraire et où la moindre velléité moutonnière serait chassée à coups de pied. Alors, je ne sais pas si tout ça n'est pas un peu peine perdue, si nous ne tombons pas un peu tous dans ce système malgré nous, ici aussi, à la grande table, Lydie Salvert, et je m'en excuse, mais c'est aussi pour ça que vous avez choisi de publier un mois plus tard ce livre, en octobre et pas en septembre.
Ce n'est pas moi qui ai décidé de la date de
parution. Ça, c'est un choix de l'éditeur.
De parution,
mais qui vous a peut-être préservé de cette rentrée littéraire assassine, comme vous l'évoquez.
D'une certaine façon, qui n'est pas qu'assassine.
Qui n'est pas qu'assassine. Et c'est de cela dont je voulais vous faire parler. Vous avez choisi de porter, depuis quelques semaines, un roman qui était peut-être passé un tout petit peu entre dans la faille, entre les lignes de la critique, celui de Pierre Ducrozet, L'invention des corps.
Oui.
Alors, juste pour faire entendre sa voix. Son roman s'appelle donc L'invention des corps, il est paru chez Actes Sud et il est entre les merveilles de la Silicon Valley et les dérives du transhumanisme, entre la quête de l'immortalité qui revient vraiment au premier plan de ce roman à travers son héros Alvaro, un génie de l'informatique. Écrire un roman du 21e siècle qui intégrerait les bouleversements technologiques et idéologiques, voilà ce qu'il disait au micro de Toufik Hakem en septembre dernier.
Je me trouve que c'est un objet passionnant, c'est celui que j'ai devant les yeux, et pourquoi ne pas le traiter en littérature? On dit toujours il faut du recul, il faut des années, il faut des siècles pour travailler sur tel sujet. Ben pourquoi ne pas tenter de travailler sur le présent? Alors c'est un autre objet, mais c'est passionnant, donc j'ai essayé aussi pour cette raison-là, et pour une autre raison, qui est que je n'y comprends pas grand-chose, à vrai dire, j'essaye de le comprendre, et en faisant un roman, j'ai l'impression de le comprendre un peu mieux, parce que je tisse des liens entre différents aspects, entre le passé et le présent, entre différentes géographies, et moi, ça me permet d'accéder peut-être à une forme de connaissance du monde. C'est une démarche qui est celle-là, en fait.
Didi Salver, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ce roman?
Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Et il parle d'un présent effarant, celui que nous fabriquent les hommes de la Silicon Valley avec le trans ou le post-humanisme qui nous annonce un homme plus performant que performant avec un super cerveau et des super organes et pas pour autant plus éthique.
Les deux mains, à la fois dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, c'est aussi comme ça que le décrivait à l'instant Pierre Ducrozet. L'occasion de vous présenter l'invité de la deuxième partie de la Grande Table qui vient de nous rejoindre, l'informaticien, professeur au Collège de France, Gérard Berry. Vous l'avez lu ce roman, il est pour vous, L'invention des corps?
Non, j'ai pas lu ce roman, non.
Est-ce que c'est important aujourd'hui pour vous, Gérard Berry, que des romanciers se saisissent de cette matière, celle aussi de l'intelligence artificielle, celle aussi des progrès et des transformations, des bouleversements technologiques, pour apporter une certaine subjectivité peut-être sur ce sujet, mais le rendre d'actualité aussi?
Oui, bien sûr, c'est important, mais des fois, je pense que c'est pas tout à fait dans le sujet, parce que sur l'intelligence artificielle, le transhumanisme, je pense qu'il y a très longtemps à attendre. On en est très, 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 très loin. Et les gens sérieux les professionnels d'intelligence artificielle, comme Yann Lequin, qui est déjà venu à France Culture, nous explique que, bah non, pour l'instant, on est loin de savoir faire ce que fait un petit enfant. Donc, il y a aussi cette tendance à pousser les choses à des endroits où elles ne sont pas encore, et où on ne sait pas quand et si elles seront. Moi, je suis pas plus inquiet que ça sur le sujet, mais le romancier, bien sûr.
Doit s'en saisir, ou peut s'en saisir. Vous allez nous aider à remettre tout cela à sa juste place, enfin, je l'espère, à partir de 12h55, puisque vous êtes l'invité de la deuxième partie de la Grande Table. Merci beaucoup à vous, Lydie Salver. Tout homme est une nuit, c'est votre roman. Il vient de paraître au seuil. Merci.
Merci à vous.